de acercar. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sein en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur. Et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus tôt soumis au Père d'esprit qui nous vivront? Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le plus paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est pourquoi, redressez la main glacée et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoile pas, mais plutôt se guérisse. Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillant, de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous trouvent, et que par elles, plusieurs ne soient souillés. De peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou profanes comme Isaü, qui pour un seul mets vendit son droit de premier lieu. Car vous savez que, aussi plus tard, désirant irriter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance, quoiqu'il l'eût recherché avec l'âme. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Dans le cantique, nous avons utilisé quelques expressions qui sont vraiment caractéristiques pour cette épître. Le mot grandeur est caractéristique parce que cette épître nous présente la grandeur de Christ, la grandeur de son œuvre et aussi sa grandeur comme chef. On a vu, cette épître se divise en trois divisions, si on peut diviser ainsi. L'emphase sur sa personne au début, ensuite l'emphase sur son œuvre, ensuite la mise en pratique de l'enseignement sous sa conduite. Donc depuis chapitre 10, 19, nous avons vu que le Seigneur Jésus est notre chef pour nous introduire dans le lieu présent. Il est notre chef aussi pour nous faire traverser le désert, on a vu cela. Et puis, cette partie qu'on a lue est vraiment la conclusion de cette section-là. Ça, c'est une longue section. Ensuite, on verra au chapitre 13 que le Seigneur Jésus est notre chef pour nous conduire en dehors du camp, en dehors du judaïsme. Et entre ces passages d'enseignement, il y a souvent, on a vu cela, des parenthèses. Et ce soir, on commence une nouvelle parenthèse au verset 12, c'est pourquoi redresser la main. Une parenthèse est toujours pour rappeler aux croyants leur responsabilité. On a vu cela au chapitre 2, au chapitre 3, 4, aussi au chapitre 6, et maintenant encore, et on a vu cela aussi au chapitre 10, une parenthèse qui rappelle la responsabilité des croyants. On a vu aussi que lorsqu'on a parlé de cette deuxième partie, que le Seigneur Jésus est notre conducteur pour nous faire traverser le désert, on a vu le besoin de persévérance. Et on a vu, ça m'a frappé dans le passé, on a vu cela dans le chapitre 10, on a besoin de cette persévérance par rapport un accès et dans le lieu saint, et on a besoin de cette persévérance pour continuer notre marche à travers l'hiver. Et ainsi on a vu que cette persévérance est vraiment une question de la foi. La foi pour nous réaliser notre dépendance du Seigneur Jésus comme étant notre chef. Et ainsi nous avons vu à la fin du chapitre 10 l'importance de la foi, le juste vivra de foi. Ensuite, les quatre principes de base de la foi au début du chapitre 11. Ensuite, la persévérance de la foi, surtout en Abraham et les patriarches. Ensuite, l'énergie de la foi, Moïse et ceux qui sont mentionnés dans cette section-là. Et la dernière fois, nous avons vu la course de la foi. Et là, nous avons vu encore l'emphase sur le Seigneur Jésus comme étant notre chef et le consommateur de la foi. Et ce soir, nous avons l'épreuve de la foi, verset 4 jusqu'au verset 11. La foi est mise à l'épreuve, est testée. Donc, nous avons vu l'exemple du Seigneur Jésus comme notre chef qui a lui-même couru la course de la foi. On a constaté au verset 1 que le mot « course » implique la pensée d'un combat. Et on va revenir au combat au verset 4. Donc, la course, c'est un combat spirituel ici. Ce n'est pas un athlète simplement qui fait son trajet, mais c'est pour chaque croyant maintenant cette course. Pour entrer dans cette course, et nous avons vu, le Seigneur Jésus est entré dans cette course et il l'a accompli. Et il est maintenant dans la gloire. Dans le cantique, on a utilisé un autre mot, suprême. Le Seigneur Jésus est suprême à travers toute cette épée. On a vu sa suprématie. Il est toujours plus grand. Il est toujours meilleur que les autres choses qui sont mentionnées. Plus grand qu'Abraham, et on a vu cela. Et maintenant, nous voyons sa suprématie parce qu'il est assis à la droite du trône de Dieu. Ça, c'est une autre chose qui est caractéristique pour les futurs Hébreux. Nous voyons le Seigneur Jésus à la droite du trône de Dieu à cause de la grandeur de sa personne, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie, à cause de la marche qu'il a accomplie. Et c'est beau de considérer le Seigneur Jésus. Juste souligner cela, on a vu que nous pouvons maintenant fixer nos regards sur lui. Il y a une grande nuée de témoins. Notre attention n'est pas fixée sur ces témoins, mais on apprend par ces témoins de la foi, on a vu cela dans Hébreux 11, mais notre regard est maintenant fixé sur le Seigneur Jésus. Et on a vu une condition pour cela, c'est rejeter tout fardeau. Donc chaque chose qui entrave, mais ce n'est pas des choses pécheresses, c'est des choses qui nous entravent dans notre course, on doit rejeter. Et surtout le péché, dans le contexte des Épîtres aux Hébreux, le péché, c'est l'incrédulité, comme on a vu dans chapitre 3 et 4, et la volonté propre pour suivre un chemin selon les pensées de l'homme. Donc ça, c'est le péché qu'on doit rejeter, et ce péché nous enveloppe si aisément. Au lieu de cela, nous devons fixer nos regards sur le Seigneur Jésus. Et fixant, verset 2, on a vu cela, veut dire en laissant de côté d'autres choses, comme la beauté du temple, comme la beauté d'un système religieux, quoi que ce soit, il faut rejeter cela dans nos pensées et il faut fixer seulement nos regards sur le Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est le secret pour la marque de la foi, d'avoir fixé les regards sur lui, sur sa personne. Et sur son exemple aussi, parce qu'on a vu, verset 2, à cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix. Donc là, nous voyons aussi son exemple. nous avons vu, il est notre chef, notre leader, mais il est aussi notre modèle. Et à cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix et a méprisé la honte qui est assis maintenant à la droite du trône de Dieu. Il a atteint le but. Encore un appel au verset 3, considérer, c'est analyser, c'est contempler en détail celui qui a enduré une telle contradiction. Le Seigneur comme modèle qui a souffert, qui a enduré, et ça c'est un autre mot-clé, endurer, ça veut dire continuer sous la pression, continuer sous le fardeau, mais continuer tout droit. Il a enduré, persévéré. À la fin du verset 3, afin que vous ne soyez pas lasses étant découragés dans vos âmes. Et ça introduit donc la prochaine section qu'on a vue ce soir, l'épreuve de la foi. Nous sommes entourés par des pécheurs et même par un système religieux qui est marqué par le péché, comme on a vu, le péché, c'est l'incrédulité, la volonté propre. Ce système peut nous causer aussi à ralentir, ce système peut nous influencer. Et ainsi, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. C'est important à comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas un appel pour combattre le péché en nous. Romains 7 nous parle de ce conflit entre la nouvelle nature et le péché, la chair. Et là, on voit que ce combat, on ne peut pas réussir. Il faut se remettre à l'esprit. Et Romains 8, nous voyons toutes nos ressources sont dans l'esprit. Dans Galates 5, il y a un combat entre l'esprit et la chair. Ce n'est pas le combat qu'on trouve ici non plus, parce que dans Romains 7 et Galates 5, c'est un combat en dedans de nous. Ici, c'est le combat par rapport aux choses qui sont en dehors de nous. Et ainsi, il est dit, combattant contre le péché. On n'est jamais appelé à combattre le péché en nous. Nous lisons dans Galates 2, verset 20, que nous sommes crucifiés avec Christ. Et ça, c'est le secret de ce problème. Et ainsi, nous ne sommes pas appelés à combattre le péché en nous. Dieu a réglé ce problème. Et pratiquement, comme j'ai dit, nous devons nous remettre à l'esprit, comme on voit dans Romains 7, pour être au-dessus de la puissance du péché en nous. Mais ici, le combat est par rapport au péché autour. Parce que même dans un système religieux, comme on voit dans les évangiles, les sadducéens, les pharisiens, les scribes, il représentait un système religieux que Dieu avait donné dans le passé, mais que l'homme avait utilisé pour sa propre gloire. Et en effet, c'était Satan qui a opéré aussi en même temps, évidemment. Et là, il y a donc le péché autour des croyants. Et ils doivent combattre ce défi pour ne pas se faire influencer par les sadducéens, par les pharisiens, par les scribes, etc. Ce système qui avait rejeté le Messie était encore là, le temple était encore là. Et puis, pour nous, ce n'est pas exactement la même situation comme dans ce temps-là, mais les dangers sont encore là comme les dangers étaient là au début. Et ainsi, cet appel est aussi pour nous qu'on combatte contre le péché. Au verset 5, on voit ici qu'il y avait donc un manquement. Le début du découragement avait commencé et ils avaient oublié l'exhortation. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que si on compare ce passage, c'est un une citation de Proverbe 3, c'est vraiment Salomon qui parle à son fils. Et c'est vraiment un merveilleux chapitre, Proverbe 3. Et ce passage est pris de Proverbe 3, mon fils. Et ici, nous voyons, au verset 5, ce n'est pas Salomon qui s'adresse à nous, c'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse à nous. Vous avez oublié l'exhortation. Et le mot exhortation est vraiment un mot qui veut dire, c'est un mot fort. Littéralement, ça veut dire quelqu'un qui parle à côté, qui se place à côté pour nous encourager. C'est pour ça que ce mot est utilisé aussi pour le mot encouragement et consolation. Comme le consolateur, l'Esprit Saint, nous console, comme le Seigneur Jésus dans la gloire, et le consolateur, il nous console. Cette exhortation nous est donnée pour nous encourager, pour nous consoler, au lieu d'oublier. L'autre chose, j'aimerais encore souligner, qui s'adresse à vous. Là, dans l'original, ça implique la pensée d'un dialogue. Ici, c'est donc un père, et on verra aussi plus tard, Dieu vu comme père, et un père qui s'adresse à son fils. Il est en train de dialoguer. C'est très beau de voir ça. C'est pas juste one way, c'est pas juste le père qui parle à son fils, mais il y a ici donc une interaction. Et ça, c'est impliqué dans ce mot qui s'adresse. Dans l'original, c'est dialogue. Et ainsi, ça présuppose donc cette communion, cette communication aussi entre le père et son fils, qu'on voit avec Salomon, avec David et aussi, mais surtout dans ce contexte-là, Salomon qui parle à son fils, dans Proverbe 3. Et ainsi, le Seigneur Jésus s'adresse à nous à plusieurs occasions. Je pense à l'Épître à la Lycée, par exemple. Il dialogue, il cherche une réponse. Il s'adresse à vous comme à des fils. Ça, c'est un autre élément. Donc, il ne faut pas oublier. Il faut voir l'exhortation, c'est pour nous encourager, pour nous édifier aussi, pour nous consoler et pour avoir ce dialogue. Parce que nous sommes des fils, c'est pour cela. Nous ne sommes pas juste des esclaves, un maître qui donne des ordres à son esclave. Dans un autre sens, nous sommes aussi des esclaves, nous sommes soumis au maître. Mais dans ce contexte-là, nous voyons la relation entre un père et un fils, ou entre le père et ses fils. Un fils est pour le bon plaisir de Dieu. On voit cela avec le Seigneur Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Et ainsi, Dieu veut avoir des fils. Dieu a un fils unique, c'est le Seigneur Jésus. Mais il cherche maintenant à avoir des fils selon l'image du Seigneur Jésus. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce contexte qu'on voit ici comme Dieu qui s'adresse à nous, c'est ici par l'Esprit, par la parole qui s'adresse à nous comme étant ses fils. Quelquefois, le Père s'adresse directement à nous, mais la Trinité s'occupe de nous. C'est ça que je voulais souligner. Dans Romains 8, l'Esprit qui nous dirige, nous sommes des fils parce que nous sommes dirigés par l'Esprit. Romains 8, verset 14. Nous sommes des fils selon l'image du Seigneur Jésus. Galates 4 nous dit que Dieu nous a envoyé son fils, l'Esprit de son fils. Et c'est beau de voir parce que Dieu cherche une réponse aussi en nous. Il a eu un fils sur la terre, le Seigneur Jésus, et maintenant Dieu veut nous avoir comme étant des fils. Il a envoyé l'Esprit de son Fils. Et dans Éphésiens 1, nous voyons le Père qui veut avoir des fils, Éphésiens 1, selon son conseil. Donc vous voyez, la Trinité est impliquée dans cela, dans cette question d'avoir des fils. Et il s'adresse ainsi, Dieu s'adresse ainsi à nous, mon Fils. Ça nous parle d'une relation, comme le Seigneur Jésus était le Fils parfait avec, dans cette relation avec le Père, Dieu s'adresse à nous comme étant ses fils, mais aussi individuellement, mon fils. C'est donc une relation d'amour qui existe entre Dieu et nous. Et je répète, ça s'applique à la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ne méprise pas la discipline. Donc, je vais encore dire, un fils est pour le bon plaisir de Dieu, pour le bon plaisir du Père. Le Seigneur Jésus, est-ce qu'il avait besoin de la discipline? Jamais. Ici, au verset 5, mon fils ne méprise pas la discipline du Seigneur. Ça ne s'applique donc pas au Seigneur Jésus. Il n'avait jamais besoin de la discipline. Il était toujours dans les voies de Dieu. Jamais il avait besoin de la discipline. Il était toujours pour le bon plaisir de Dieu, et Dieu a toujours trouvé sa satisfaction en lui. Mais Dieu est en train de nous former selon l'exemple du Seigneur Jésus. Et Dieu veut nous éduquer. Le mot discipline, dans notre esprit, le mot discipline est souvent négatif. Mais dans l'original, ce mot discipline veut dire éducation, instruction. Ça implique aussi châtiment, si c'est nécessaire. Mais c'est pour ce but positif, pour nous éduquer, pour être des fils, pour la joie du cœur de Dieu. Puis pour nous amener à la maturité. Donc nous sommes aussi des enfants de Dieu. Comme enfants de Dieu, nous représentons Dieu dans ce monde. Dieu est lumière et amour. Et Dieu nous a donné cette nature divine pour représenter Dieu dans ce monde. Mais la pensée d'être fils, c'est ce que nous sommes pour la joie du cœur de Dieu. Pas seulement pour le représenter dans ce monde comme étant ses enfants, mais pour satisfaire le cœur de Dieu. Et ainsi, on a le mot fils plusieurs fois dans ce passage, je pense 6 fois. Et pourquoi la discipline? Donc, je répète, parce que Dieu veut nous former pour lui-même. Il veut nous avoir comme le Seigneur Jésus. C'est vraiment le but, une formation spirituelle pour être conforme à Christ. C'est un standard très élevé, mais Dieu veut nous avoir comme Christ. En anglais, on dit Christ-like. Dieu veut voir Christ en nous. Et ça implique donc, la discipline implique un élément négatif, le jugement de soi-même. La discipline implique cette formation, cette éducation, cet enseignement, ces instructions. Et on verra aussi les résultats de cette discipline pour participer à sa sainteté, pour être en accord avec les standards de Dieu. Maintenant, il y a 4 points par rapport à cette discipline que j'aimerais souligner. C'est comment on réagit. Est-ce qu'on méprise? Au verset 5, ne méprise pas. Donc il y a un danger qu'on méprise la discipline. On voit cela par exemple avec les Corinthiens. Les Corinthiens étaient exhortés sévèrement par l'apôtre Paul, mais il y en avait qui, ça ne les dérangeait pas, ça ne leur parlait pas, ils n'avaient pas une réaction dans leur esprit, dans leur conscience. Ils étaient en train de mépriser la discipline et l'enseignement. L'autre danger, c'est qu'on perd courage. On est comme écrasé. On voit cela avec les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, les jeunes croyants, sous la pression de leurs circonstances, de la persécution, ils étaient en train de se décourager. Comme on voit aussi au verset 3 ici, étant découragés dans vos âmes. On peut se sentir écrasé sous le poids des épreuves et on perd courage. Le Seigneur ne veut pas qu'on perde courage. Il dit clairement, ne perds pas courage. On pense à Joseph qui a parlé à ses frères au moment où ils étaient découragés. Ils avaient visité Joseph, ils ne savaient pas encore que c'était Joseph, mais à un moment donné, ils pensaient que à cause de leur péché, du péché, Dieu avait placé ce poids devant eux. Ils étaient en prison quelques jours, et puis Joseph a gardé un frère, probablement Simon, je pense, et puis il les encourage. Et il dit, quand tu es repris par lui, c'est ça qu'on voit avec Joseph, il a repris ses frères, mais c'était pour leur faire du bien, comme on voit dans cette histoire, dans Genèse 50. C'est vraiment une histoire très intéressante pour voir comment Joseph a eu la sagesse pour qu'ils puissent apprendre leur leçon. Et ainsi, Dieu s'occupe de nous avec une sagesse merveilleuse pour nous former, pour nous discipliner, pour nous enseigner, et même si c'est nécessaire pour être repris, pour nous reprendre. Quand tu es repris par lui, il ne faut pas perdre le courage. Repris, c'est un mot plus fort. Ça veut dire donc Dieu expose les choses, il montre ce qui n'est pas correct, pour qu'on soit convaincu dans notre conscience et dans notre cœur, c'est vraiment faux. Il faut corriger ça. Et là, ça amène au jugement de soi-même. Mais cette répréhension, c'est fort, mais c'est pour notre bien. C'est pour nous convaincre de quelque chose qui doit être corrigé et jugé. Au verset 6, car celui que le Seigneur aime, il a maintenant le motif, c'est par amour qu'il le fait. Et ici, c'est le Seigneur qui s'occupe de nous. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. Donc cette éducation que nous avons vue, et juste brièvement, le mot discipline, on trouve 4 fois dans ce passage le mot discipliner ou éduquer comme verbe, 3 fois, et il y a aussi un mot instructeur qui est utilisé ici, tout par rapport à cette discipline. Donc, le Seigneur, il aime, ici c'est Dieu, le Seigneur c'est avec astérisque, ça veut dire donc une référence à l'Éternel, celui que le Seigneur aime, parce que c'est une citation de Proverbe 3, il le discipline. Et je répète, le Seigneur Jésus, la seule exception, il n'avait pas besoin d'être discipliné ou d'être fouetté. Fouetté, ça va ensemble avec être repris, on a vu. Donc, l'enseignement, la discipline, l'éducation, l'instruction, et le châtiment fort, plus fort, la répréhension, c'est nécessaire pour quel but? Pour nous former, pour être un fils qu'il agrée. Littéralement, ça veut dire un fils pour qui Dieu peut dire « Bienvenue chez moi, j'aime t'avoir chez moi ». C'est ça la pensée. Dieu aime nous avoir dans sa présence et aime avoir son bon plaisir en nous, en nous recevant chez lui, en disant « Bienvenue chez moi ». Ça, c'est la pensée. Verset 7, « Vous endurez des peines ». On a parlé de ce verbe « endurer », que c'est un mot-clé dans ce passage-là. On passe à travers le désert, il y a des obstacles, il y a des épreuves, et nous devons endurer, comme le Seigneur Jésus a enduré. Et ainsi, nous devons aussi endurer la discipline, parce que c'est pour notre bien. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Vous voyez, c'est encore répété. Tout ce qu'il fait avec nous, c'est par rapport à son amour envers nous, parce que nous sommes des fils. Et il veut nous former selon l'image du Seigneur Jésus. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Donc il parle maintenant de l'expérience de la discipline qui est nécessaire. Parce que, verset 8 le dit, si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Donc la discipline est là, ça présuppose cette relation d'amour. On a vu, c'est par amour que Dieu discipline. Et si on n'a pas de discipline, ça veut dire qu'on n'est pas de fils, on est des bâtards. Comme on a vu d'autres passages dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6 par exemple, il y avait une forme de confession sans la réalité, là, c'est des bâtards. Ils ne connaissent pas cette discipline parce qu'ils ne sont pas de fils. Et le mot participer, c'est aussi important à souligner cela. Si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, ce mot est un mot clé dans l'épître aux Hébreux. On a vu cela dans chapitre 1, verset 9. On est des associés au Fils de Dieu. C'est le même mot dans l'original. On est participant de l'appel céleste, chapitre 3. Et on a vu aussi au chapitre 6, verset 4, cette pensée de la participation. Juste une petite pensée ici par rapport à cette participation. Premier chapitre, on est des associés qui ont une part avec le Fils. Dans chapitre 6, on participe, on a quelque chose en commun avec l'Esprit. Ici, on a une part dans la discipline. Pourquoi? Parce que le Père cherche quelque chose en nous. Il cherche à nous former pour que nous soyons comme le Seigneur Jésus. Ainsi, il y a donc une part par rapport au Père, donc, une part par rapport au Fils, une part par rapport au Saint-Esprit, chapitre 6, et maintenant une part par rapport au Père. Cette participation, c'est un mot-clé dans cet épître. Verset 9, de plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner. Maintenant, il prend l'exemple de cette relation dans la nature, les pères selon la chair, et nous les avons respectés. Il amène maintenant le troisième point. Le respect nous parle de la soumission. Et ainsi il dit, ne serons-nous pas beaucoup plus tôt soumis au Père des Esprits? Donc, la troisième chose, par rapport à la discipline, c'est la question de la soumission. Les Juifs se sont rebellés contre Dieu. Et il y avait des Juifs, comme on a vu au chapitre 6, qui n'ont pas vraiment accepté l'enseignement de cet épître. Ils étaient dans cette place. Ils n'étaient pas soumis au Père des Esprits. Mais il nous convient donc d'être soumis au Père des Esprits. Là, on va profiter de la discipline. Au lieu de la mépriser, au lieu de perdre courage, on se soumet au Père des Esprits. C'est une belle expression. Parce que le Père, je pense que la seule fois que Dieu est mentionné comme Père dans l'Épître aux Hébreux, ça nous montre la grandeur du Père, du Dieu comme Père. Le Père des Esprits. Ici, des esprits des croyants, évidemment. Et il nous forme pour être selon le modèle du Seigneur Jésus, le Fils de son amour. Et cette soumission qu'on voit avec le Seigneur Jésus, cette soumission est la bonne attitude que nous pouvons montrer pour profiter de cette discipline. Et le résultat, nous vivrons. Cela aura un effet bénéfique. C'est la vie spirituelle, évidemment. C'est la joie de la communion avec Dieu. Donc la bonne attitude, ça c'est le troisième point. Et il élabore cet exemple encore au verset 10, car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours. Donc les parents, selon la chair, ont seulement un contrôle pour un certain temps. Mais à l'école de Dieu, nous sommes tout le temps sous la discipline du Père. Tout le temps. Et on a vu, l'Esprit a une part, le Fils a une part, le Père a une part dans cette formation. Ce n'est pas pendant peu de jours, mais c'est pour toute notre vie, jusqu'à l'enlèvement. Une autre différence, selon qui le trouvait bon. Ils l'ont discipliné comme ce qu'ils pensaient bon. Peut-être qu'ils se sont trompés. Comme parents, on peut se tromper, même ayant de bonnes intentions. Est-ce que Dieu se trompe? Jamais. Donc là, il y a un contraste, encore un autre contraste.
Le premier contraste avec les pères selon la chair, c'est peu de jours, avec Dieu, c'est toute notre vie. Cette discipline, cette formation, cette éducation. Et avec Dieu, c'est selon un standard élevé qui est toujours parfait. Pas seulement selon nos idées, mais selon ces standards qui sont toujours bons. Celui-ci nous discipline pour notre profit. Et ainsi, ce sera toujours pour notre profit, parce que Dieu ne se trompe jamais. Sa discipline est toujours pour notre profit. La discipline des parents peut manquer. Ça peut être dans une circonstance, pas pour notre profit. Mais avec Dieu, c'est toujours pour notre profit. Le but de cela, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu cherche à avoir des fils. On a vu dans le chapitre 2 que le Seigneur Jésus amène beaucoup de fils à la gloire. C'est pour ainsi jouir de la présence de Dieu. Et ainsi, déjà maintenant, Dieu veut que nous puissions participer à sa sainteté. C'est donc pour avoir cette communion. Dieu nous a donné cette nouvelle nature et ainsi il nous éduque, il nous élève pratiquement pour pouvoir répondre à ses standards de sainteté. Je pense que c'est la seule fois que ce mot est utilisé qui représente, qui souligne donc le caractère, la nature de Dieu. Et nous, comme étant ses fils, il veut que nous puissions répondre à sa nature. Et ainsi, il trouve sa joie en nous. Comme il a trouvé sa joie dans le Seigneur Jésus, il aime trouver sa joie en nous. Verset 11, « Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » Là, c'est le quatrième point. Le résultat de cet exercice. Le mot « exercice » implique cette formation. C'est pour ça que j'ai dit on est à l'école de Dieu. De ce mot « exercice » vient notre mot « gymnase ». On est au gymnase de Dieu. Ici, ce n'est pas pour la pratique physique, mais c'est pour l'exercice spirituel, pour nous former à son école. On est au gymnase de Dieu. Et Dieu va avoir des résultats. Il nous élève à travers ses classes, au gymnase de Dieu, et cet exercice va avoir de bons résultats. Donc ici, le quatrième point, c'est un résultat. On est exercé. Et le résultat est là. C'est quoi le résultat? Elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est tellement beau. Dans le psaume 85, on trouve que dans le millénium, la paix et la justice vont s'entrebaiser. Il y aura donc une communion entre la justice et la paix dans le millénium. Mais pour le croyant, c'est déjà le cas maintenant. Pas seulement positionnellement, on sait positionnellement en Christ, la paix et la justice sont maintenues parce que notre position en Christ est parfaite. Donc la justice de Dieu a été parfaitement satisfaite et ainsi il peut y avoir la paix. On trouve cela dans Romains, la paix avec Dieu à cause de cette justice que Dieu nous a donnée. Il nous a justifiés. Mais ici c'est un résultat d'une œuvre de Dieu en nous. Pratiquement, ce résultat est là, et ce fruit paisible de la justice, mais ces deux éléments ensemble, de la paix et de la justice. Donc on comprend, c'est le résultat d'une œuvre de Dieu. C'est comme le fruit de l'esprit, comme on voit dans Galates 5, c'est un travail de l'esprit. Mais c'est aussi le fruit de la justice, parce que c'est le Père qui opère en nous, et c'est le Fils qui opère en nous. Ce fruit de justice, c'est le résultat d'une œuvre de Dieu. On trouve cette expression, par exemple, dans Philippiens. C'est vraiment beau de voir ça, Philippiens 1. Où on trouve dans Philippiens 1, verset 6, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et ensuite, Philippiens 1, verset 11, donc verset 10 dit, pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs, et que vous ne branchiez pas jusqu'au jour de Christ, verset 11, étant rempli du fruit de la justice. C'est un résultat semblable. Et ce résultat est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc là, on voit que c'est par Jésus-Christ qui a commencé une œuvre, il va l'accomplir. Ici, dans Hébreux, l'emphase est sur Dieu le Père. Et il opère en nous, il va avoir ce résultat pour sa gloire. Et ce que Dieu va voir dans le monde à venir, dans le millénium, cette harmonie entre la justice et la paix, cette harmonie, il voit maintenant déjà comme le fruit paisible de la justice produit en nous. Ça veut dire dans les croyants qui se sont soumis au Père des Esprits et qui sont exercés par ce travail. Au verset 12, on commence donc cette parenthèse où Paul applique maintenant l'enseignement aux croyants. Si on est exercé, ça va se manifester dans ces sept points. Il y a sept points. C'est pourquoi redresser les mains lassées et les genoux défaillants. Il veut nous mettre sur le bon chemin et il veut nous fortifier pour que nous puissions aller dans la bonne direction. Et redresser, au lieu que nos mains soient tout faibles, il veut que nous puissions utiliser nos mains, le travail, et aussi nos genoux qui nous rappellent la prière. Au lieu d'avoir des genoux paralysés, défaillants, il veut que nous puissions utiliser nos genoux pour être des héros de prière, pour être des combattants, comme nous avons vu. Et ainsi, nos actions, les mains, vont ensemble avec nos prières, et les mains, au lieu d'être lassées, sont redressées, les genoux, au lieu d'être paralysés, sont maintenant fortifiés. Le deuxième point, faites des sentiers droits à vos pieds, ainsi notre marche est soulignée. On va dans la bonne direction, un chemin droit. On pense à cet homme paralytique dans Acte 14 que Paul a guéri et puis c'était pour qu'il puisse aller ce droit chemin. Et ainsi nous avons tous besoin de cette force que Dieu nous donne pour aller un sentier droit pour nos pieds. Ce serait tout un sujet à étudier. Dieu a toujours un sentier droit pour le croyant. Un sentier droit. C'est un très beau sujet, mais je ne peux pas élaborer maintenant. Afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas. Au lieu de perdre la bonne direction, il se dévoie, il veut que nous puissions aller tout droit. Au lieu d'écarter, on va tout droit. C'est ça la pensée. Et au lieu d'être défaillant, guéri. Donc c'est les provisions que Dieu donne pour que nous puissions aller dans la bonne direction et faire le bon travail. Le troisième point au verset 14, poursuivez la paix avec tous. Poursuivez, c'est le même verbe qu'on trouve avec persécuter. Quand Paul a persécuté les croyants, c'est le même verbe dans l'original. Donc c'est un mot fort. Ça veut dire un exercice très très fort pour poursuivre la paix. Ici, c'est la paix avec tous. D'abord les croyants, évidemment. Que nous puissions être caractérisés par le Seigneur Jésus, le Prince de paix. On trouve le Seigneur de paix souvent. Et ainsi, il veut que cela se manifeste en nous. Comme la sagesse d'en haut est marquée par cette paix. Et là, le fruit de la justice est marqué aussi par la paix. C'est un autre exemple. Dans Jacques 3, verset 17, on trouve la sagesse d'en haut. Et dans chapitre 3, verset 18, il dit que que nous pouvons maintenant travailler ainsi, le verset Mishap, il veut juste le lire. Or, le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Vous voyez, c'est vraiment une pensée semblable à ce qu'on a ici dans Hébreux 12 avec la justice pratique, le fruit de l'enseignement de l'Esprit, le fruit de l'enseignement de Christ qui est la sagesse d'en haut. Il y a maintenant un résultat pour Dieu dans notre marche et ainsi des fruits pour lui. Verset 14. Poursuivez la paix avec tous. Quatrième point, la sainteté. Si c'est donc la sainteté pratique, on lit dans 1 Corinthiens 7 que même dans un couple où un partenaire a été sauvé, l'autre partenaire est sanctifié, mis à part. Ce n'est pas cette sainteté, évidemment. Ou lorsqu'on parle d'un autre aspect de la sainteté que nous avons positionnellement, on a vu cela dans Hébreux 10, sur la base de l'œuvre de Christ, nous avons une position de sainteté devant Dieu, qui est parfaite. Il ne parle pas de cela non plus. Ou si on pense à notre futur, lorsque nous serons dans la gloire, dans une sainteté parfaite, il ne parle pas de cela non plus. Il parle maintenant d'une sainteté pratique qui est un processus continuel. La sainteté, c'est ici un processus, mais aussi une pratique de sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tantôt, on a vu, nous avons fixé nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous considérons celui qui a enduré une telle contradiction, et maintenant, nous voyons le Seigneur. Mais comment? S'il y a un élément d'impureté en nous, on ne peut pas voir le Seigneur pratiquement. Le Seigneur l'explique dans Matthieu 5. Il dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Donc cette pureté, ensemble avec cette sainteté pratique, qui est le résultat de cette œuvre de Dieu qu'on a vue tantôt, le fruit de l'Esprit. Cette sainteté pratique sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais maintenant, en étant soumis à ce travail de Dieu, il y aura cette sainteté pratique et là, nous voyons le Seigneur. On a la communion avec lui. Le danger, verset 15, veillant de peur que quelqu'un ne manque de grâce. Ça, c'est le cinquième point. Il ne faut pas manquer de grâce de Dieu. Et là, le mot « manquer » veut dire « demeurer en arrière ». Si un croyant dit « ok, mais moi j'ai fait un effort, ça suffit maintenant, je vais m'asseoir et les autres vont continuer. » Non, là, on est en danger de demeurer en arrière. On est dans une course, on a vu cela. La course de la foi, il faut continuer au lieu de demeurer en arrière. Et ici, ce danger est par rapport à la grâce de Dieu. Quelqu'un qui veut retourner dans un système judaïque, dans un système religieux de l'homme, il manque de grâce. C'est donc un grand danger. Ça, c'est le cinquième point et qui fait partie de cette parenthèse d'exhortation. J'aime beaucoup l'expression « la grâce de Dieu ». C'est la grâce de Dieu. Et ce serait tout un sujet aussi à étudier, la grâce de Dieu, qu'on trouve dans les actes par exemple, comment les apôtres ont encouragé les croyants de rester dans la grâce de Dieu. Je serais tenté d'apporter tous ces passages, mais je pense au Seigneur Jésus, Luc 2. Le Seigneur Jésus était marqué par la grâce de Dieu, dans Luc 2, verset 40. Et ainsi, les premiers croyants étaient marqué par cette grâce de Dieu. Et cette expression revient souvent dans les actes. Aussi dans 1 Pierre, notre position est une position selon la grâce de Dieu, pas selon un système religieux. Et ainsi, nous avons besoin de la grâce pour aussi dans nos interactions. Au lieu de de former un système religieux, le danger est toujours là parce que la chair est toujours en nous. Il faut que nous soyons marqués par la grâce de Dieu. Si ce n'est pas le cas, si on ne donne pas toute la place à la grâce de Dieu, il y a un danger, un autre danger, pas seulement de rester en arrière, mais que quelques racines d'amertume va bourgeonner en haut. Dans l'Ancien Testament, où cette expression est utilisée la première fois, c'est dans Deutéronome, dans le message de Moïse au peuple, puis là c'est le danger de l'idolâtrie qui va causer une racine d'amertume. Ici, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, c'est le danger d'un système légaliste, d'un système religieux de l'homme, judaïque, qui va causer de l'amertume. Donc, dans les deux cas, il y a le danger, si on s'expose à ces influences, de l'idolâtrie ou d'un système judaïque, là, il y aura donc de l'amertume. Puis c'est très pratique, il y a des croyants qui se placent dans un système très légaliste, sectaire, puis là, on voit facilement une racine d'amertume et qui va troubler tout le monde. C'est ça que le verset dit, et que par elle, plusieurs ne soient souillés. Je pense que vous avez pratiquement eu cette expérience aussi. C'est une expérience qui arrive facilement. Et le Seigneur veut nous protéger contre ces choses. Le sixième point, c'est le verset 16, de peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs. Si on continue sur un tel chemin, il y aura donc la fornication. Ici, c'est spirituel, évidemment, un lien avec le monde, même avec le monde religieux. C'est la fornication selon les pensées de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit coupable d'une fornication spirituelle. Et l'apostasie, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, le danger était de retomber dans le judaïsme. C'est l'apostasie. Et cette fornication est donc ce chemin qui mène à l'apostasie. Le septième point, ou profane. Ça veut dire profane, aucun lien avec Dieu, aucun intérêt pour les choses de Dieu. Ésaü n'a pas regardé son droit de premier-né, c'est quelque chose que Dieu avait donné, Dieu avait institué cela, et ainsi les croyants hébreux avaient le droit de d'aînesse. On voit cela un peu plus loin au verset 23, l'assemblée des premiers-nés. On va revenir à ça la prochaine fois, Dieu voulant. Mais les premiers-nés ont un droit de premier-né. Mais Ésaü ne connaissait pas ça. Il était le premier-né, mais il n'était pas intéressé aux pensées de Dieu. Et pour nous, le danger est donc qu'on n'a pas assez d'intérêt pour les pensées de Dieu. Mais si nous voyons le Seigneur Jésus, le premier-né, nous aurons de l'intérêt pour la part des premiers-nés. Et on ne tombera pas dans ce piège-là. Et qu'est-ce qu'on voit avec Ésaü, qui a rejeté donc les pensées de Dieu, qui a méprisé les pensées de Dieu? Plus tard, il voulait hériter la bénédiction, mais c'était trop tard. Il s'était endurci. Et c'est ça qu'on voit avec les Hébreux. S'ils restaient là à Jérusalem, à un moment donné, ce serait trop tard. Ils seraient pris dans la destruction du temple et dans la destruction de la ville. On a vu déjà dans le passé, la mort physique ne veut pas dire automatiquement qu'on perd le salut. Mais la mort physique serait la conséquence des voies de Dieu avec eux en discipline. Ça peut arriver, on voit cela aussi dans 1 Corinthiens 11, si quelqu'un s'endurcit, il ne se corrige pas, il ne se repent pas, là il y a donc dans les voies de Dieu même la mort physique. Ça ne veut pas dire perdre le salut, ça c'est pas du tout le cas. Mais il voulait hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance. Il n'avait jamais connu la repentance. Et maintenant, c'était trop tard. Là, il y a aussi une leçon pour nous. Les croyants doivent être marqués par la repentance. C'est un autre mot-clé dans ce passage, la repentance. On voit avec Ésaü qu'il était rejeté, il était désapprouvé. C'est ça que le mot veut dire. Il ne pouvait pas passer le test. Il ne pouvait pas entrer à l'école de Dieu. Il n'était pas qualifié. Il était désapprouvé. Car, pourquoi ? Car il ne trouva pas lieu à la repentance. Donc la repentance est une clé importante. Par la repentance, on entre dans la présence de Dieu. Seulement le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de repentance. On a vu, il n'avait pas besoin de discipline, il n'avait pas besoin de repentance dans ce sens-là. Nous, on a besoin de la repentance, et ce serait un autre sujet clé dans le Nouveau Testament, pour que nous puissions être en communion avec Dieu. Cette repentance est vraiment importante. Il y a des croyants qui pensent qu'un croyant n'a pas besoin de repentance. On a besoin de la repentance pour être sauvé, puis ça finit. Non. Comme croyant, on a souvent besoin de la repentance pour être restauré, pour être gardé aussi dans le bon chemin. Ici, avec Ésaü, il n'y avait pas de repentance. Il ne cherchait pas la repentance non plus. Ce qu'il cherchait, c'était la bénédiction. Mais sans la repentance, il ne pouvait pas avoir la bénédiction. Malgré le fait qu'il cherchait la bénédiction avec larmes, on peut être trompé par les larmes. Ça peut être une bonne façade. Et ainsi, la prochaine fois, donc, on va voir d'autres choses qui vont ensemble avec la bonne part que Dieu nous donne. On est à l'école de Dieu et il nous introduit dans ce contexte de bénédiction. Et là, on verra 7 ou 8 points par rapport à cette nouvelle position que Dieu nous a donnée. Juste un point général, on a vu déjà les bénédictions du millénium. Dieu veut qu'on les jouisse déjà spirituellement, comme la paix et la justice. Et ainsi, on verra aussi dans le passage suivant des bénédictions qui seront vues dans le millénium publiquement. Dieu nous les donne déjà maintenant. Ça, c'est vraiment un secret de l'Épître aux Hébreux, qui nous parle beaucoup du monde à venir avec toutes ces bénédictions. Et maintenant, spirituellement, ces bénédictions sont déjà notre part. Si nous voulons prendre ces leçons à l'école de Dieu, comme nous avons vu, au lieu de mépriser la discipline ou perdre courage, si nous sommes soumis et nous sommes exercés, là, on va aussi jouir de toutes ces bénédictions que Dieu a pour nous. Et je répète, c'est les bénédictions qu'on trouve dans le monde à venir, et c'est encore distingué de toutes les bénédictions que nous avons par rapport à notre position, comme Éphésiens nous le montre. Donc, Hébreux est vraiment très spécial à cet égard, qui nous présente les bénédictions du monde à venir, déjà maintenant aux croyants. Est-ce qu'il y a encore une question ou un point à discuter ?